RCF.
Et même quelques jours avant Noël, ils sont là en studio, oui. L'équipe de Culturel. Bonjour Laurence.
Bonjour Vincent, bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culturel. Alors, comme chaque année, pour les deux dernières émissions de l'année, on vous propose des émissions un petit peu spéciales où on va faire des rencontres. Cette semaine, nous allons rencontrer des artistes, des plasticiens, des peintres. La première rencontre, c'est une très belle rencontre qu'on vous propose, c'est partir à la découverte d'Hélène Aftermeyer, découvrir son univers qui est à voir et à apprécier à la Chapelle Saint-Libéral à Brive. Hélène Aftermeyer, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez une exposition à la Chapelle Saint-Libéral de Brive. L'exposition s'intitule « Écho de l'âme » avec une très belle affiche. Et quand on rentre dans cette exposition, on a l'impression de découvrir votre univers. Vous êtes une artiste plasticienne. J'avais rencontré ou découvert votre travail, notamment à Clairgoût, un été au château de Cédère, où j'avais découvert des sculptures. Et là, quand on découvre cette exposition, on se rend compte que vous êtes vraiment une plasticienne, c'est-à-dire que vous avez plusieurs modes d'expression. Comment avez-vous choisi les œuvres qui sont présentées dans cette exposition ?
Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier quand même de m'accorder cet entretien. En fait, l'idée, c'est que dans les expositions, que ce soit celle de Clairgoût ou celle à Brive, à la Chapelle Saint-Libéral, le musée Labanche m'a donné carte blanche dans les deux cas.
Donc c'est vous qui avez choisi le titre, c'est vous qui avez choisi aussi les œuvres.
Voilà.
Donc parmi les œuvres, alors on découvre des sculptures, ce qu'on avait peut-être découvert à d'autres endroits, mais il n'y a pas que ça, il y a des dessins, il y a des peintures, et ça fait un tout, je trouve. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous les avez choisies? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer au public?
Alors l'idée, c'est que j'utilise différents médias, et le point commun de toutes ces œuvres, c'est l'attention. Donc la tension véhiculée par la torsion des fils de fer, par la vivacité du coup de crayon. Et je réalise des œuvres avec toujours cette idée de générer, via cette tension, d'insuffler une vitalité en fait.
Alors quand je suis rentrée dans la chapelle, ce qui m'a tout de suite attirée, c'est les grands portraits qui sont accrochés, suspendus dans les airs, dans le cœur de la chapelle. Ce sont des portraits en fil. Ces portraits, ils sont quand même saisissants, c'est-à-dire que c'est une sculpture, on se dit, bah oui, c'est en trois dimensions, mais ça va au-delà. Moi, j'ai l'impression d'avoir des êtres vivants en face de moi.
Alors, le vide, ça représente les pleins, et le métal, donc le fil de fer, les ombres, c'est les creux. Et donc déjà, c'est exactement le contraire d'une sculpture traditionnelle en terre. Parce que la matière est vide. Je sais pas si vous me suivez.
Oui, oui, ben oui, moi je vois tout à fait. Et je pense que nos auditeurs, il suffit d'aller voir une photo de votre création et en fait, ils vont tout de suite comprendre. Et comment vous faites ça? Comment vous travaillez? Alors, vous faites un dessin? Comment ça se passe?
Alors, il n'y a pas de travail préparatoire. Alors vraiment, j'essaye d'être fidèle à mes émotions, en tout cas à ce que je garde en mémoire. J'ai besoin de travailler comme ça. Et comment débuter? Alors, j'ai un espèce d'amas de fil de fer dans la main et un téléphone portable avec un éclairage LED. Mmh. Et en fait, j'éclaire derrière ma main mon amas de fil de fer et tout ça, l'ensemble est projeté sur un mur blanc et c'est comme si je dessinais l'ombre.
D'accord.
Et donc, si on s'amusait à projeter ces sculptures sur un fond blanc avec une lumière, on aurait un rendu hyper réaliste.
Et ça veut dire que quand vous faites ça, donc votre sculpture, elle est accrochée, mais j'imagine que vous passez plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur une œuvre. Ça veut dire que vous repérez aussi la façon dont vous éclairez votre création?
On peut en fait envisager tout type d'éclairage. La sculpture, elle peut se voir comme ça, avec du recul, comme à la chapelle. On a quand même un visage bien défini, même si on ne projette pas l'ombre. Mais quand on travaille dans un endroit un peu plus modeste en taille, on est obligé de projeter l'ombre pour pouvoir simuler le recul.
Et alors, comment vous savez que votre portrait est terminé, parce que je me dis, ben, vous utilisez le vide, vous nous l'avez dit, mais le vide, on peut le combler aussi avec du fil. À quel moment vous savez que c'est terminé et que on arrête?
Dès que j'ai la sensation d'avoir trouvé une émotion qui me parle, je me dis c'est bon. Je fais une distinction entre une œuvre d'art quelque part et un objet décoratif. J'ai pas besoin forcément d'atteindre un enrobage parfait. À partir du moment où il y a une émotion, il y a une tension palpable, pour moi, c'est bon.
Alors, dans cette exposition, on découvre d'autres types de sculptures, notamment, ce qui m'a aussi beaucoup fascinée, c'est des sculptures qui sont cette fois-ci en métal, mais vraiment, on a l'impression qu'il y a des clous, vous nous direz si c'est le cas ou pas. On a deux chats qui se font face à face, et là, on voit à la fois la tension, on les voit prêts à bondir, on entend pratiquement les grognements. Là, alors déjà, qu'est-ce que vous utilisez pour constituer ces œuvres?
Alors là, c'est du métal tout venant, hein, qu'on me donne ou que je glane. Et j'aime bien être indépendante du début de la conception à la réalisation finale. Et c'est vrai que avant, je me suis fait de mes armes de manière un peu académique avec de la terre, du plâtre. Mais j'avais pas nécessairement envie de passer par le stade fonderie. J'avais pas envie de déléguer. Et donc j'ai trouvé que apprendre à utiliser la soudure à l'arc et à faire fondre en fait le métal moi-même, c'était un bon moyen de contourner tout ça. Donc comment je procède? C'est de la soudure à l'arc, à la baguette. Et j'utilise le découpeur plasma. Et quand les pièces sont lourdes et que je peux pas couler le métal dans la direction que je désire sans me brûler, je les sangle pour pouvoir m'aider à les porter. Et c'est ça qui me donne la forme de mes sculptures. Par exemple, le petit chat, le Pégase, sont des sculptures pleines à l'intérieur, comme si un bronze avait été coulé.
Pareil, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'esquisse au départ. Vous lancez comme ça.
Oui. Après, je dis pas que je changerai pas. Hein,
oui, mais oui. Mais ça veut dire que vous avez quand même plein d'images mentales, parce que en fait, quand on voit des chats et on le retrouve ce mouvement là, enfin la forme de la queue, le dos, enfin il y a tout quoi.
Mais je pense avoir à la base un bon dessin académique.
Ah oui, ça on le voit sur d'autres.
Voilà, et donc ce qui me permet effectivement de travailler de mémoire, et j'aime travailler de mémoire parce que mes œuvres quelque part sont fidèles à ce que j'ai à l'intérieur, et donc c'est assez fascinant comme démarche personnelle, en tout cas pour soi.
Alors dans moi il y a une question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi vous nous avez parlé de la terre, vous nous avez parlé du plâtre. Pourquoi ce choix du métal? Parce que quand on est comme ça à l'extérieur, on se dit ça doit être dur à travailler, c'est plutôt froid. Quand on évoque la sculpture, il y a quelque chose de sensuel. Est-ce que vous retrouvez cette sensualité dans le métal? Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce travail-là?
Il y a plusieurs temps. Il peut y avoir de la sensualité parce que on dirige la coulée en fait du métal chaud. Donc le mouvement essentiel, comme je pense lorsqu'on manie la terre, mais parfois il faut un petit peu plus de combat, un peu plus de force, un peu plus de puissance, et on met une tension je pense émotionnelle en proportion, et je trouve que cette dualité se ressent pareil dans le travail final. L'œuvre, elle conserve en mémoire cette historique de tension, en fait.
Alors, quand vous travaillez, est-ce que vous travaillez à 100% sur une œuvre, ou est-ce que vous permettez comme ça d'avoir plusieurs œuvres en parallèle? Parce que dans l'exposition, on voit vraiment des expressions qui sont très différentes. Vous avez parlé des portraits, c'est vrai qu'ils sont avec... on a l'impression que c'est des coups de crayon. Pareil, c'est du vide, en fait. Vous travaillez autour du vide, un petit peu comme les portraits en fil. Il y a des... toiles, des peintures, où on a vraiment un travail qui est très différent. Est-ce que vous menez une œuvre de front ou est-ce que, comme ça, vous allez à gauche et à droite? Comment vous faites?
Alors moi, j'ai besoin d'aller à gauche et à droite pour pouvoir faire des pauses, ce qui me permet de retrouver à chaque fois un recul par rapport à l'œuvre, un peu comme si c'était de nouveau la première fois que je la voyais. J'ai besoin de ça, comme ça, voilà, une petite période de réflexion. Et aussi pour protéger, comment dire, parfois quand on est vraiment fatigué d'avoir vu la même œuvre, on peut avoir des gestes malheureux, donc ça me permet d'éviter pas mal de problèmes, d'avoir cette attitude-là.
Écoutez, Hélène Achtermeyer, merci d'avoir répondu à mes questions. Vraiment, on a été dans l'équipe séduit par votre travail qui a découvert donc à la galerie à la Chapelle Saint-Libéral de Brive, à Brive-la-Gaillarde, jusqu'au 24 janvier. C'est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Donc voilà, allez-y. Alors ça sera fermé le 25 et le 25 décembre et le 1er janvier. C'est fermé aussi les dimanches. Mais merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on pourra vous retrouver comme ça dans d'autres endroits du Limousin.
Bah, je vous remercie également. Et puis j'en profite quand même pour remercier au passage le musée La Banche, le directeur, son équipe, les élus qui m'ont fait confiance.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Alors Sandrine, vous avez mis la main sur la première musique.
Oui, une musique à la fois classique et moderne. Vous avez reconnu O Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff, parce que le spectacle sera joué demain soir au Zénith de Limoges.
Merci Sandrine pour cette proposition. Alors, avant de passer, j'ai oublié de faire une annonce de la part d'Hélène Achtermeyer, qui recherche dans la région de la Corrèze, alors je pense que c'est autour de Brive, et dans le Lot, des personnes qui auraient chez eux un dôme, alors c'est-à-dire un plafond très très haut, parce qu'elle aimerait bien en fait créer sa chapelle Sixtine, faire comme ça des portraits, des personnages en fil au plafond, comme ça, sur un haut plafond. Écoutez, allez voir à la chapelle Saint-Libéral, vous allez être convaincu que c'est une bonne idée si vous avez un plafond très très haut. Donc voilà, le message est passé et puis vous pouvez la contacter par exemple par les réseaux sociaux. Alors, place aux propositions. Nous avons quelques idées de sortie. Moi, la première sortie, j'ai envie de vous proposer, c'est aller voir une très très belle exposition. C'est l'exposition temporaire que l'on peut découvrir au Musée des Beaux-Arts de Limoges, le BAL. Alors cette année, je pense que vous êtes au courant que nous célébrons un anniversaire exceptionnel. C'est le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, un événement qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'art. Et cette exposition, elle est considérée comme l'acte de naissance du mouvement Art déco, ce style qui est quand même très connu, qui est à la fois audacieux, élégant, qui va conquérir le monde dans les années folles. Alors, on est en 1925, Paris, et plus précisément le Champ de Mars, devient l'épicentre de la modernité. Artisans, artistes et industriels du monde entier s'y retrouvent avec une consigne claire, faire moderne. Et parmi eux, il y a la ville de Limoges qui va briller de mille feux. Son pavillon, idéalement situé vraiment au cœur des très grands pavillons, est une vitrine du bouillonnement artistique de la région. On y trouve évidemment des porcelainiers, des émailleurs, mais pas que. Il y a aussi les lissiers d'Aubusson et de Feltin qui sont représentés, les gantiers de Saint-Junien, et tous vont présenter des créations qui sont audacieuses, qui mêlent à la fois leur savoir-faire traditionnel et puis l'innovation. Et ainsi, Limoges va s'imposer comme l'une des capitales mondiales d'une modernité décorative qui fait rêver le monde entier. Et alors, ce fait absolument incroyable, c'est que de cette exposition internationale, il ne reste aucune trace architecturale à Paris. C'est-à-dire que tous les pavillons qui avaient été construits en ciment ou en béton ont été complètement détruits, ce qui est très rare, hein, parce que toutes les expositions qui ont eu lieu, exposition internationale, il y a toujours quelque chose qui restait, au moins un pavillon. Qu'est-ce qui reste de cette exposition mythique? Eh ben, c'est ce que nous propose de découvrir le Musée des Beaux-Arts de Limoges avec une exposition qui s'intitule « Faire moderne, 1925, Limoges, Art déco ». Alors, quand on va pénétrer dans la grande salle de l'exposition, le visiteur est complètement plongé dans l'effervescence de 1925, on découvre une maquette du pavillon, il y a des photographies d'époque, il y a des décors aussi qui sont reconstitués, qui permettent de découvrir un petit peu l'ambiance de cette exposition. Les pièces exposées sont merveilleuses, enfin elles sont vraiment à couper le souffle. On a évidemment des porcelaines, il y a des émaux chatoyants, il y a des gants aussi, des pare-feu. Mais alors sur les émaux, enfin, c'est sublime. Il y a des brûle-parfums, il y a des lampes, il y a aussi des grandes plaques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces objets, certains de ces objets sont accompagnés de documents, notamment de dessins, qui permettent de comprendre un petit peu le processus créatif des artistes, en fait, qui ont conçu tout ça. On va retrouver des grands noms, des femmes comme Jeanne Soubourou ou Henriette Marty, la fille d'Alexandre. Il y a des grands noms comme ça, comme Léon Jouot, comme Sarlandi ou Forêt qui sont représentés. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette exposition, c'est que c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'elle nous propose sur la fin du parcours de comprendre comment cette exposition a modifié en fait Limoges, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, comment ce coup de projecteur qui a été fait sur la ville a été perduré, et puis aussi toutes les créations qui ont découlé, avec notamment une dernière salle avec des pièces de toute beauté. Alors ces pièces, elles viennent soit du musée, hein, des Beaux-Arts de Limoges. Certaines pièces ont été prêtées par des grandes institutions comme le musée de Adrien Duboucher à Limoges. Et puis d'autres, beaucoup, viennent de collectionneurs particuliers. Donc c'est aussi l'occasion unique de voir des pièces que l'on ne peut généralement pas découvrir, sauf si on est ami ou soi-même collectionneur. Donc vraiment, c'est une exposition à découvrir. Vous avez jusqu'au 9 mars. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le jour de Noël et le 1er janvier. Et le mardi, il est fermé, mais vous avez voilà du mercredi jusqu'au lundi pour aller découvrir vraiment cette très très belle exposition. Sandrine, vous nous proposez un spectacle.
Oui, un spectacle dans l'air du temps, on va dire, dans cette période de Noël. Je vous propose d'aller voir un spectacle qui s'appelle le calendrier Magic, M-A-G-I-C, de l'Avent. Alors c'est au Café Théâtre L'Improviste à Brive, c'est demain soir à 20h, et c'est un spectacle de magie, comme son nom l'indique, qui va fonctionner sur le thème du calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier Magic de l'Avent, M-A-G-I-C, parce que c'est Yann Magic, qui propose ce spectacle. Yann Magic, c'est un jeune magicien, briviste, donc qui fait ses armes. Et là, il a décidé de faire un spectacle avec des, on va dire, sur le principe de une case de l'avant, un petit tour de magie, un petit événement surprenant, et il allie magie et humour. Donc c'est un spectacle pour les grands et les petits. Ça dure 1h15 à peu près. Donc certes c'est les vacances, mais pour les plus jeunes, on commence à 20h, à 21h15 c'est fini. Ça, c'est 8€ pour les adultes et 2€ pour les enfants. Donc c'est vraiment l'occasion d'être dans la magie pour le coup et la féerie de Noël. Pour une somme relativement modique. Et c'est donc à Brive, à l'improviste.
Merci Sandrine pour cette proposition. Bernard, vous nous proposez un concert qui va être lui aussi festif.
Festif, il est entre les deux fêtes. Donc c'est le dimanche 28 décembre à 15h. L'Opéra de Limoges propose à la Maison des Arts et de la Danse, Jean Moulin on dit aussi, un florilège des airs les plus connus de Jacques Offenbach. Sur scène, le chœur de l'Opéra de Limoges, dirigé par sa chef de chœur en résidence, Arlinda Roux-Majolari, qu'on connaît très très bien.
Oui.
Accompagné au piano par Elisabeth Brussel. Au programme, des extraits de La vie parisienne, du Voyage dans la Lune, qui a été monté il y a quelques années à Limoges, des Contes d'Hoffmann, de La Belle Hélène, des Brigands et d'Orphée aux Enfers. Je vous propose d'écouter le galop infernal, extrait de l'acte 4 de Orphée aux Enfers, French Cancan. Entendre le galop infernal d'Orphée aux Enfers d'Offenbach, il est interprété par le chœur Raymond Saint-Paul, accompagné par l'orchestre L'Amoureux sous la direction de Gilles Gressier. Si vous avez un empêchement pour vous rendre à la Maison des Arts et de la Danse Jean Moulin le dimanche 20 décembre, il est possible d'assister au même concert au Rock de Panazol le dimanche 3 janvier, à la salle Georges Brassens de Fétia le samedi 17 janvier, et à la salle Jean-Pierre Fabregue de Saint-Thierry, La Perche, le dimanche 18 janvier. Donc, il y a des possibilités.
Une tournée Haute-Vienne. Merci Bernard pour cette proposition. Ben, je vous propose, chers auditeurs, de découvrir notre deuxième invité. Il s'agit d'Olivier Morel, qui est présent sur la façade de l'abbaye Saint-André à Meymac. Bonjour Olivier Morel.
Bonjour.
Vous signez le 21e calendrier de l'Avent qui orne la façade du CAC, Centre d'art contemporain de Meymac. Alors, votre calendrier, je trouve que c'est vraiment un calendrier qui est très très réussi parce que c'est une invitation au voyage, c'est une invitation à la découverte, c'est un calendrier qui est poétique, qui est joyeux. Alors, il porte un nom, ce nom c'est Ozeshi. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est ce terme et comment est née l'idée de ce calendrier comme ça aussi envoûtant?
Je vous remercie tout d'abord pour tous vos compliments, parce que ça me touche beaucoup et je suis ravi. J'espère que ce calendrier va plaire aussi à l'ensemble du public qui pourra le découvrir pendant tout le mois de décembre. Ozeshi, c'est un nom japonais qui correspond à un ensemble de mets traditionnels qui sont préparés pour la fin de l'année. Alors, pas spécifiquement pour Noël, puisque Noël n'est pas une fête japonaise, mais plutôt pour la fin de l'année. Cependant, les mets qui sont préparés pendant tout le mois de décembre, parce que ce sont des préparations culinaires assez complexes. Et ça correspondait bien dans l'esprit à ce que Caroline Bissière, la directrice du CAC, m'avait demandé pour le calendrier de l'Avent.
Alors, on peut expliquer le lien entre votre calendrier, Caroline Bissière, et vous. En fait, c'est quand même le Japon. C'est-à-dire, vous avez été présenté, votre travail a été exposé deux fois au CAC à Memac. Moi, je me souviens très bien de l'exposition Journal intime, carnet de voyage, où vous nous proposiez déjà une découverte du Japon.
Tout à fait. Le Japon, c'est vraiment c'est un pays qui me passionne, que j'ai visité une douzaine de fois et qui est vraiment très très présent dans ma création, soit de façon directe sous la forme de sujets comme effectivement les Tokyo Kids que j'avais présenté déjà à Memac, soit sous la forme de réflexions philosophiques qui interviennent dans mes sujets plus naturels comme les montagnes et la forêt. Et pour ce calendrier de l'Avent, j'ai voulu faire une sorte de clin d'œil à cette relation que j'avais déjà avec le centre d'art et avec le Japon en proposant ce projet qui est à la fois gustatif, donc ça me semblait correspondre assez bien à l'esprit de fête de fin d'année, mais en même temps qui est assez symbolique et poétique. Et l'idée de ce calendrier de l'Avent, c'est de montrer des mets traditionnels, mais il faut penser que chaque mets est souvent associé à une symbolique particulière, dont l'objectif est de souhaiter des choses positives pour la fin de l'année et pour l'année qui va démarrer.
Alors, est-ce qu'il y a un ordre dans ces mets? Alors déjà, est-ce que le nombre de mets est quelque chose qui est codifié ou c'est un peu chacun fait un petit peu comme il veut? Est-ce qu'il y a un ordre dans la dégustation? Est-ce que c'est quelque chose qui est codifié ou pas?
Alors là, je ne suis pas assez compétent en la matière pour vous indiquer, pour être trop précis. Il y a un nombre assez important de mets qui sont présentés dans des bento, hein, ces fameuses boîtes cloisonnées qui présentent plusieurs plats. Et il y a des mets qui sont vraiment très représentatifs. Après, je pense que, sans vouloir dire de bêtises, il y a des mets qui sont plus importants et souvent plus représentés que d'autres, comme les soba, qui sont vraiment des plats typiquement de fin d'année, ou les mochi, et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus secondaires.
D'accord. Alors, quand vous avez construit ce calendrier, il n'y a pas que des mets, hein, il y a aussi des petites surprises, il y a des personnages. Par exemple, il y a une fillette, c'est l'image qu'on a découvert avec le projet de souscription, une fillette qui est vêtue d'un sublime kimono. Il y a comme ça d'autres images qui apparaissent dans votre calendrier.
Tout à fait. L'idée principale, c'était de transformer la façade de l'abbaye en bento géant, et donc de faire apparaître dans chaque fenêtre un mets particulier. Mais j'ai voulu quand même rompre un petit peu la série par des éléments complémentaires, de jouer sur le côté festif de Noël, et puis introduire des personnages ou certaines images sous forme de jeux. Rappeler aussi que les saisons sont très importantes au Japon, et donc d'évoquer la saison hivernale par des arbres, notamment le pin, l'érable ou bien les kakis. Et c'est pour ça que au niveau de... Alors je ne veux pas dévoiler l'intégralité de l'affichage sur la façade, mais les mets sont regroupés plutôt du côté gauche de la façade de l'abbaye, et les éléments un petit peu... différences sont plutôt regroupées sur la partie droite de la façade.
Et comment était, alors quand on a un calendrier de l'Avent, on sait que l'ordre des fenêtres, des ouvertures des cases est généralement aléatoire. Est-ce que vous avez choisi l'ordre ou vous avez laissé le centre d'art s'occuper de ça?
Non, c'est moi qui ai choisi l'ordre d'allumage des fenêtres. je l'ai fait de façon presque instinctive, toujours dans ce même esprit de mélanger, enfin d'alterner l'allumage des fenêtres avec des mets et puis les autres fenêtres. C'était aussi un aspect esthétique. Faire apparaître, enfin éviter que toute une partie de la façade reste dans l'ombre, tandis que l'autre resterait, serait entièrement allumée. Donc j'ai fait une sorte de croisement entre les différentes fenêtres. Voilà, ça s'est fait un petit peu voilà, au jugé, on va dire.
Alors quand on a souscrit... parce que je rappelle que ce calendrier, en fait, il est élaboré grâce à un financement, en fait, qui est collaboratif. C'est-à-dire que c'est des amis du centre d'art, des habitants de Meymac, qui font un don, en fait, pour réaliser ce calendrier. On avait une plaquette en couleur avec donc cette fillette qui était représentée. On avait aussi des crevettes, mais assez vite, on avait compris que c'était d'abord du dessin. Et là, comment vous êtes passé? Parce que quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ce que vous présentez, c'est un format carré, alors que les fenêtres, c'est un format forcément plus ou moins rectangulaire. Ça a été une contrainte, ça, ou pas?
Oui, votre remarque est tout à fait juste. C'est une contrainte, d'abord parce que dans mon travail habituel et dans mon travail de peinture, je fais surtout des formats qui sont des formats horizontaux et non pas des formats verticaux. Donc c'était vraiment un défi très particulier avec des formats qui sont vraiment très verticaux, puisque ce sont des fenêtres et souvent on a un rapport de 1 sur 2 hein, pour la largeur et la hauteur. Le parti que j'ai pris a été pour certaines compositions qui étaient les compositions justement de plats qui étaient présentés dans des assiettes de démarrer sur des compositions carrées mais en faisant déjà une simulation de l'ouverture de la fenêtre. Donc je savais ce qui apparaîtrait dans la fenêtre et ce qui serait masqué. Et pour d'autres compositions qui étaient déjà ouvertement verticales comme les personnages, comme la petite fille dans son kimono, ou certaines représentations d'arbres. Là, je suis parti sur des formats verticaux qui étaient très proches du format de la fenêtre.
Et comment ça se passe, le passage du dessin? Donc, il y a ce problème de format, mais il y a aussi après un problème de rendu, c'est-à-dire que ce que vous faites sur une feuille ou sur une toile, ben forcément, quand c'est rétro-projeté, parce que l'éclairage est derrière, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que vous avez dû jouer avec ça aussi?
Oui, tout à fait. J'ai pris en compte la disposition de l'image imprimée sur bâche et rétroéclairée m'évoquait un travail de vitrail. Et donc, j'ai pensé que des peintures numériques, des images qui seraient réalisées en tablette graphique seraient déjà lumineuses du fait même du travail sur l'écran lumineux. Donc, j'ai fait un premier travail préparatoire qui est en général mon mode opératoire. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins au crayon de couleur dans mes carnets de croquis. D'abord pour sélectionner le nombre d'images, il m'en fallait 26. En fait, j'en ai fait beaucoup plus que les 26, de façon à avoir vraiment celle qui me plaisait le plus. Et puis, une fois que j'ai mis en place à la fois les différentes compositions et puis placé ces images où je fais une simulation de la façade de l'abbaye pour voir à quel endroit j'allais placer mes différentes images, là, je me suis lancé dans la réalisation finale avec une tablette graphique. Alors c'est sûr que c'est un travail qui est très très différent du travail de peinture ou de dessin habituel. Ce n'est pas un outil que je maîtrise parfaitement et d'une certaine manière ça m'arrangeait parce que parfois le fait d'avoir un peu de maladresse ça peut être aussi très intéressant au niveau du rendu. Et c'est ce que j'appelle des peintures numériques dans le sens où il y a vraiment un travail par la couleur. Un travail au pinceau, mais qui évidemment passe par le stylet sur l'écran. Mmh. Mais il y a un rendu assez proche finalement de la peinture, même s'il n'y a pas, bien évidemment, la même texture, la même matérialité que dans une peinture.
Alors, ce calendrier de l'Avent, c'est aussi l'occasion de découvrir une partie de votre univers, parce que vous présentez une partie de votre travail à l'intérieur de l'abbaye.
Tout à fait. Dans l'abbaye, il y a deux expositions qui me sont consacrées, enfin deux salles qui me sont consacrées. Il y a une première salle qui est au dernier étage ou l'avant-dernier étage qui s'intitule Forêt et Montagne et qui reprend les travaux de mes dernières séries qui ont été consacrées à des représentations de forêt et puis donc de montagne en Haute-Savoie. Et puis il y a l'exposition des impressions pigmentaires des peintures numériques du calendrier de l'Avent qui sont présentés au rez-de-chaussée. Et là, c'est l'occasion de voir de plus près les images qui sont montées sur les fenêtres et sous forme de tirage papier. Et tirage papier qui sont de très très bonne qualité, mais dans des formats bien évidemment inférieurs à celui des fenêtres.
Écoutez, Olivier Morel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis vraiment, j'encourage tous nos auditeurs à aller à MEMAC découvrir ce calendrier de l'Avent et puis aussi profiter pour découvrir votre exposition et puis aussi l'exposition première qui est consacrée à la toute première exposition de jeunes artistes en devenir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Laurence.
Alors, avant de terminer cette émission, quelques idées de lecture. Alors moi, j'ai une première proposition à vous faire qui complète magnifiquement découverte de l'exposition au bal. Il s'agit du catalogue d'exposition qui est proposé par les Ardents éditeurs. Ça s'appelle Limoges Art Déco 1925 ou Faire Moderne. Et l'homme qui est à l'origine de ce gros ouvrage, c'est Jean-Marc Ferrer. Alors, c'est pas le seul auteur, hein. Il est accompagné de grands noms de la région. Stéphanie Birampeau, par exemple, du musée Cécile Sabourdi, qui fait, par exemple, le portrait d'existence que l'on découvre dans l'exposition. Mais il y a évidemment François Lafabrier, qui est le conservateur du patrimoine et surtout directeur du musée des Beaux-Arts, ou bien, Alain Charles Lyonnais, qui est responsable des collections de l'Émail. Alors pourquoi ce livre, il est sublime ? C'est plus qu'un catalogue d'exposition, c'est-à-dire qu'on retrouve évidemment les photographies de tout ce que l'on peut découvrir dans l'exposition, mais il va au-delà, c'est-à-dire que Jean-Marc Ferrer nous propose de découvrir la ville de Limoges dans les années 1920-1930, où il va faire d'abord un point sur la ville, et puis aussi il va nous montrer à quel point il y avait un bouillonnement culturel qui était absolument incroyable à Limoges, avec entre autres des galeries et une grande galerie qui s'appelle la galerie d'Alpera, enfin qui s'appelait la galerie d'Alpera, et aussi des collectionneurs avec une famille mythique de collectionneurs dont il reste quelques bâtiments à Limoges. C'est la famille Monteux, la dynastie Monteux qui avait fait fortune dans les chaussures. Donc on va découvrir ça. Et puis dans une autre partie, on va être complètement immergé dans l'exposition. Alors là, on voit forcément des photographies, des illustrations. Il faut bien comprendre que la difficulté, elle est grande, en fait, de parler de cette exposition, parce qu'il reste que quelques photographies. Mais c'était aussi une exposition où il y avait des ventes. C'est-à-dire que les gens, ils ont acheté des pièces. Donc, savoir précisément ce qu'il y avait à l'intérieur de l'exposition, c'est un vrai travail de chercheur. Et à la fin, on découvre, par exemple, le Limoges post 1925, avec des endroits absolument mythiques qu'on a peut-être un peu oubliés. Il s'agit de l'avenue Jean Jaurès, qui est une grande rue de l'art déco, et puis évidemment la gare et le Champ d'Huillet, où on peut découvrir comme ça tous les éléments d'architecture qui sont inspirés de tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui était très beau par son iconographie, mais aussi qui est très intéressant. C'est une écriture qui est fluide. Ça se lit vraiment comme un roman. C'est un travail de recherche, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques notes, mais c'est pas pesant. Par chapitre, on a à la fin du chapitre les notes qui sont expliquées, etc., de façon très synthétique. Les iconographies sont aussi très très bien repérées. Moi, je trouve vraiment c'est un ouvrage remarquable. Qu'on ait vu l'exposition ou qu'on ne l'ait pas encore vu, c'est vraiment un beau cadeau à se faire, parce que vous allez apprendre plein plein de choses sur la région. Si vous aimez la porcelaine et l'émail, pareil, vous allez vous faire plaisir. Et puis moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé la découverte aussi de la rue Jean Jaurès. On la connaît tous, hein, à Limoges, cette avenue, mais j'avais jamais vu qu'il y avait autant de richesses architecturales à découvrir. Il faut lever les yeux. Donc vraiment un joli cadeau à se faire. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies et notamment au musée des Beaux-Arts en sortant de l'exposition. Bernard, une proposition de lecture.
Oui, un très beau roman. C'est Elsa Fotorino. Elle a publié le début septembre au Mercure de France son cinquième roman nommé Passion brève. Il y est question d'une relation amoureuse passionnelle entre un pianiste soliste en fin de carrière et la narratrice jeune universitaire. Elsa Fotorino partage son temps entre le journalisme spécialisé en musique classique et le roman. Elle eut la reconnaissance avec son quatrième, Parle tout bas, qui a fait partie de la première liste du prix Goncourt et du prix Femina en 2021. La mère de la narratrice, grande pianiste, est morte récemment. La jeune femme souhaite vendre son piano à Bechstein. C'est ainsi qu'elle rencontre Simon, venu l'essayer. Il ne l'achètera pas, mais ils deviendront amants. Sur fond de musique classique, Elsa Fottorino nous offre un très beau roman décrivant une passion qui touche à l'absolu, mais 40 ans séparent le couple. Passion brève d'Elsa Fottorino au Mercure de France.
Merci Bernard pour cette proposition. On va se quitter avec un petit peu de musique, mais avant ça, bon, on vous souhaite de passer de jolies fêtes de Noël et puis on vous retrouve la semaine prochaine avec une autre émission un petit peu spéciale. Cette fois-ci, il sera question de musique et puis aussi de promenade à la découverte de Limoges. Je vous propose de découvrir un titre qui est Enlevé plein de vie. C'est proposé par David Walters et ça s'appelle Santi Kno.
Tout ça plus fort qu'une.